Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Monseigneur Marc Ayé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.
Ce 13 mai, nous accueillons Monseigneur Marc Ayé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron. Bonjour Monseigneur.
Bonjour.
Nous sommes avec Violaine Ricourt-Dumas. Bonjour Violaine.
Bonjour à tous.
Et nous allons aborder différents sujets aujourd'hui pour les auditeurs de Radio Présence Lourdes Pyrénées et des auditeurs de Radio La Pourdie Ratia. Nous allons revenir sur l'Assemblée plénière des évêques qui s'est tenue à Lourdes du 8 au 10 avril. Nous parlerons de la préparation du synode de la famille. Nous évoquerons aussi votre voyage en Russie, Monseigneur. Nous reviendrons sur les canonisations des papes Jean XXIII et Jean-Paul II. Et puis nous aborderons quelques événements diocésains en cours. Alors, Monseigneur Marc Ayé, vous étiez à Lourdes avec vos confrères évêques du 8 au 10 avril. Quel a été le climat de cette assemblée de printemps ?
Alors, c'est sûr qu'il avait été un peu précédé par une certaine agitation, on va dire, un peu médiatique, en tout cas dans nos médias catholiques. Je pense aux inquiétudes de la Croix sur les divisions au sein de l'épiscopat français, en particulier à propos de ce qu'il est convenu d'appeler maintenant l'affaire Brugère, cet universitaire de Bordeaux qui avait été invité à une rencontre des délégués diocésains de la passerelle familiale à Paris, à l'initiative du Conseil épiscopal Famille et Société, qui a finalement été décommandé à cause de remous qui ont pu agiter les réseaux sociaux autour de cette invitation. Et c'est vrai qu'on sentait les journalistes, qui d'ailleurs n'étaient pas admis à participer aux travaux de cette assemblée dont l'essentiel s'est passé à huis clos, on les sentait un petit peu inquiets, fébriles, et donc déjà apportant une certaine effervescence. Donc c'est dans ce climat que nous nous sommes rassemblés pour notre assemblée de printemps, qui est plus brève que celle de novembre, comme vous le savez, qui dure trois jours et demi. Moi, ce que je tiens à souligner d'emblée, c'est que le climat est fraternel. Et que si effectivement, dans le cadre du huis clos, et qui est d'ailleurs à huis clos, et donc dont rien ne transpirera dans cette émission quant au contenu de nos débats, nous pouvons nous parler franchement. Mais vous savez, quand on est frère, on peut aussi se dire les choses. Et je crois que la parole a été libérée entre nous pendant ce huis clos, et je crois que c'est une bonne nouvelle. Mais dans un climat fraternel. Hein, il ne faut pas oublier que l'essentiel de notre assemblée se déroule dans un climat de prière qui encadre toutes nos rencontres. Nous disons ensemble une bonne partie de la liturgie des heures, des laudes, aux vêpres, en passant par l'office du milieu du jour. Et au sommet de la journée, à midi moins le quart, nous avons l'Eucharistie que nous concélébrons tous ensemble. Donc c'est forcé que ça donne une tonalité et à notre assemblée, à nos travaux. Donc, je peux vous
dire que...
Qu'est-ce
qui fait que c'est à huis clos, en fait, c'est à chaque fois, certains sujets sont à huis clos? Comment c'est décidé?
Alors, les séances d'actualité qui suivent immédiatement le discours d'ouverture du président sont toujours à huis clos, parce que c'est l'occasion d'exprimer un peu notre ressenti sur l'actualité de l'Église comme sur l'actualité du monde et de la société. Et ça me semble en effet plus prudent que nous puissions parler librement à huis clos. Donc c'est pas une parole publique qui doit forcément être dosée, prudente, parce qu'elle s'adresse à un grand public qui n'est pas forcément d'ailleurs toujours averti des questions qui sont soulevées et qui nous inquiètent dans notre responsabilité pastorale et puis aussi d'homme public dans la société. Et donc c'est logique que nous ayons un temps plus discret de liberté de parole entre nous.
Mais des conclusions après sont rendues publiques?
Les actualités, ce qui concerne l'actualité ne conduit pas à des décisions. Hein. C'est une expression libre de la parole sur les différents sujets et qui peut conduire d'ailleurs à un certain nombre de débats. En gros, pour tout vous dire comment ça se passe, l'un des vice-présidents nous invite à lever la main pour dire le sujet que nous voudrions aborder. sur lequel nous voulons parler. Et ensuite, s'il y a lieu, ça peut donner l'occasion d'un petit débat entre nous. Hein, donc il y a de fait des prises de parole qui se suivent de débats, parfois un peu contradictoires, même, pourquoi pas, hein, pendant trois quarts d'heure, une heure, d'autres sujets qui ne donnent lieu à aucun débat.
Est-ce qu'il ne vaut pas mieux justement qu'il y ait ce débat entre vous à huis clos plutôt que en non-débat? En fait, tout le monde est gentil, tout le monde est beau finalement.
Absolument. Et je dirais qu'il y a deux écueils. À la fois le non-débat, ça c'est donc il y a des sujets qui restent tabous entre nous et finalement chacun reste dans son camp à soi. Et puis aussi le débat quand il devient public n'est pas bon, parce qu'on risque de mettre en cause des confrères à travers des prises de parole que nous pourrions avoir de manière un peu intempestive et indiscrète, donc imprudente, auprès des médias qui souvent d'ailleurs ne comprennent pas vraiment les enjeux de l'Église quand il s'agit des médias laïcs ou profanes.
Et ces débats, d'ailleurs, ils agitent quand même l'Église aujourd'hui. Il faut le reconnaître dans les diocèses, dans les communautés. Vous-même, à la messe chrismale, vous avez mis en garde les chrétiens et les prêtres sur les divisions qui peuvent jaillir ici ou là. Il faut quand même qu'il y ait un débat pour que les choses s'apaisent et puis pour que on puisse cheminer tous ensemble.
Tout à fait. Moi, je ne suis pas contre la culture du débat, bien sûr. Hein. Mais ce que j'avais mis en exergue au cours de la messe chrismale, c'est le risque de division et de division sur des malentendus. Vous voyez, je crois que le débat, qui devrait d'ailleurs être davantage le dialogue que le débat, hein, pour nous, il doit se fonder sur des faits avérés et objectifs. Et malheureusement, souvent, les débats qui sont agités à travers les médias, au sein de l'Église comme au sein de la société, s'enflamment sur des malentendus parfois et sur des faits qui sont pas toujours objectifs. Le pape François, en recevant un certain nombre de journalistes catholiques en Italie, avait parlé des trois péchés qui guettent les médias. Il a parlé de la calomnie, de la diffamation et de la désinformation. Et il disait que le péché le plus grave, c'est la désinformation. Parce que la désinformation, ça consiste à donner une part de la vérité, en occulter une autre, soit parce qu'on les connaît pas, ou soit parce qu'on ne veut pas les connaître. Et donc, du coup, on donne qu'une partie de la vérité et on crée une désinformation qui peut être très préjudiciable à l'équilibre et à la communion, hein, au sein d'une institution comme l'Église.
Alors on en parlera peut-être tout à l'heure à l'occasion de votre voyage en Russie, justement. Pour revenir à l'Assemblée plénière, vous avez aussi assisté à des témoignages. Donc Jean Vanier de l'Arche qui est venu témoigner sur la fragilité.
Oui, c'est vrai que c'est important puisque, comme vous le savez, le Saint-Père, François, dans son exhortation apostolique, la joie de l'Évangile, a beaucoup insisté, et souvent dans ses prises de parole, depuis le début de son pontificat, sur le soin que nous devons avoir des fragilités. Et de fait, nous sommes engagés à travers certains groupes de travail, que ce soit celui du phénomène social d'avortement, que ce soit celui de la pastorale familiale, qui connaît de grandes fragilités aujourd'hui, hein, au sein de notre société moderne, eh bien nous sommes évidemment tendus, hein, et orientés vers ce soin que nous devons prendre de toutes les fragilités. Alors c'était beau d'avoir ce témoin de Jean Vanier, qui est quand même un ténor, hein, du service des plus petits et des plus fragiles, en particulier à travers sa grande œuvre de l'Arche, autour des personnes trisomiques, où il ne s'agit pas seulement d'apporter une aide aux personnes trisomiques, mais de donner à ces personnes fragiles toute leur place dans la société à travers des communautés où l'on vit la communion fraternelle entre personnes sans handicap et personnes porteuses d'un handicap.
Quels ont été les autres sujets que vous avez abordés avec les évêques? Qu'est-ce que vous avez retenu de cette assemblée finalement?
Alors, les sujets qui ont été abordés, c'est en général le point sur les groupes de travail en cours. Donc ça a été celui du phénomène social de l'avortement sur lequel on reviendra peut-être, le groupe de travail sur la pastorale de la préparation au mariage dans le cadre de la nouvelle évangélisation, qui a rendu, on peut dire, sa copie avec un document que nous pouvons diffuser maintenant dans nos diocèses pour comme piste de travail dans ce grand domaine de la préparation au sacrement de mariage. Il y a eu aussi quand même trois séances animées par la commission à laquelle j'appartiens, la CEMOLEM, c'est-à-dire la commission épiscopale pour les ministres ordonnés et les laïcs en mission ecclésiale, qui a fait plancher les évêques sur la formation des futurs prêtres. Donc d'abord, à travers un message que nous voudrions adresser d'un commun accord aux séminaires de France qui sont invités à un pèlerinage à Lourdes, en novembre prochain, dans la foulée de l'Assemblée plénière de novembre à Lourdes. Et ensuite, nous avons animé des forums, chacun membre de cette commission, dont moi-même. On animait avec une vingtaine d'évêques un forum sur différents thèmes relatifs à la formation sacerdotale. Et au ministère des prêtres et aux conséquences pour la formation sacerdotale. Et finalement, un débat en grande assemblée sur ces remontées, disons, de ces forums. Et puis, nous avons abordé aussi la question des questions économiques, la question essentiellement des conventions collectives au sein de nos diocèses, pour mutualiser un certain nombre de moyens et de forces, et marcher vers une plus grande solidarité financière entre les diocèses qui, pour certains, sont très pauvres, en grande difficulté, d'autres plus riches ou avec une situation plus confortable, entre parenthèses, comme le nôtre.
Vous avez enfin eu le témoignage d'un évêque d'Ukraine. Ça a été peut-être l'occasion de parler de la situation en Ukraine et à l'approche aussi des élections européennes le 25 mai prochain. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Est-ce que vous avez un message à nous donner sur ces élections?
Alors c'est sûr que c'était un témoignage très ciblé d'un évêque qui est responsable des Ukrainiens catholiques, qu'on appelle parfois les uniates, en Europe, et qui a participé à la Révolution Orange, dont on a beaucoup parlé en décembre et janvier, et donc qui a dit un peu les aspirations du peuple, qui n'étaient sans doute pas, comme les médias le disent, d'une manière aussi dialectique, à se décider pour ou contre l'Europe ou la Russie, disant que l'Union européenne devait aussi prendre acte que ce sont les Ukrainiens qui doivent décider de leur sort et de leur avenir, mais qui nous a montré l'effervescence un peu de cette révolution, qui a sans doute eu ses débordements politiques et ses instrumentalisations politiques qu'il ne faut pas non plus se cacher, mais il a surtout insisté sur le désir de vivre dans la paix, dans la justice, d'un peuple où toutes les religions, d'ailleurs autant les orthodoxes du patriarcat de Moscou que les orthodoxes du patriarcat de Kiev, qui n'est pas reconnu d'ailleurs par les autres patriarcats orthodoxes du monde entier, et que les grecs catholiques, mais aussi les juifs et les musulmans, faisaient assez coronum pour défendre la dignité d'un peuple à décider de son avenir.
Radio La Pourdi.
Monseigneur Ayet, nous vous retrouvons pour cet entretien avec vous. Nous parlons de l'Assemblée plénière des évêques qui a eu lieu donc du 8 au 10 avril dernier. Autre sujet important abordé durant cette Assemblée plénière, c'est la famille, puisque vous préparez ce synode pour la famille du mois d'octobre prochain, avec donc différents thèmes abordés, la préparation au mariage dans le contexte de la nouvelle évangélisation et puis une conclusion sur le phénomène social de l'avortement.
Oui, alors donc la conclusion était surtout sur la préparation au mariage dans le contexte de la nouvelle évangélisation, donc qui était un groupe de travail dirigé par Monseigneur Benoît Gonin de Beauvais, qui donc, après nous avoir fait d'ailleurs entendre quelques témoignages à l'Assemblée de novembre, apportait des conclusions sur lesquelles on se retrouve quand même tous, qui est qu'aujourd'hui la préparation au mariage doit intégrer davantage que par le passé une dimension catéchuménale, Sachant que beaucoup de nos fiancés qui se présentent à l'église, en moindre nombre d'ailleurs qu'autrefois, pour se marier, sont parfois loin de la vie de l'église, n'ont pas forcément tous été catéchisés, beaucoup même ne sont pas baptisés, et on voit bien que la réussite du mariage repose sans doute sur ces fameux fondements ou piliers anthropologiques que nous défendons dans la préparation mordicus, la liberté, l'indissolubilité du lien, la fidélité, l'engagement à la fidélité, l'ouverture à la vie. Et c'est déjà très structurant pour fonder un foyer, une famille. Mais on voit bien aussi que la réussite du mariage vient aussi de sa sacramentalité et donc du lien nouveau qu'il établit entre le couple et le Christ dans la foi et l'Église comme communauté de foi. Donc c'est pourquoi nous insistons beaucoup aujourd'hui sur l'accueil par une communauté chrétienne, une annonce un peu kérigmatique du mystère de la foi de Jésus, une catéchèse sacramentelle. Et puis on insiste beaucoup aussi sur la durée de la préparation. Hein, on pense que il faut aussi que cette préparation, pour pouvoir être vraiment intégrée dans un projet de vie, d'avenir, eh bien, doit se s'étaler un peu dans le temps, hein, d'une année avec des rencontres diverses et variées, avec des couples qui peuvent donner un témoignage sur des questions pointues de morale conjugale et familiale, sur l'apprentissage de la prière, des rencontres avec la communauté paroissiale, etc., etc. Donc je pense qu'il y a un beau chantier qui est à l'œuvre et qui, de fait, nous rejoint dans nos préoccupations au sein du diocèse, comme vous le savez, par la mise en place d'un service dédié à la pastorale familiale, qui d'ailleurs est en train de se mettre en place. Pour l'instant, le délégué fait le tour des curés, des mouvements, pour entendre leurs sentiments, connaître la réalité du terrain en termes de préparation au mariage, de pastorale familiale, avant que de constituer une équipe qui soit suffisamment représentative de l'ensemble des sujets que nous avons abordés dans une pastorale familiale, et puis les mettre vraiment au travail, quoi.
Et donc sur le phénomène social de l'avortement, vous avez...
Alors sur le phénomène social de l'avortement, le travail n'est pas terminé, mais nous avons eu une très bonne intervention du curé de Saint-Louis-d'Antin. Vous savez que la particularité de cette paroisse parisienne de Saint-Louis-d'Antin, au milieu des grands magasins là du boulevard Haussmann, c'est de proposer le sacrement de pénitence et de réconciliation non-stop, de 8h du matin à 20h le soir, avec une quantité industrielle, si je puis dire, de confesseurs qui font des permanences régulières. Et l'idée, c'était de présenter le résultat d'une enquête que ce curé avait fait auprès d'une vingtaine de confesseurs qui avaient confessé à Saint-Louis-d'Antin au moins pendant 3 ans, de manière régulière, au moins 4 heures par semaine. Donc un vrai ministère d'accueil, d'écoute et de réconciliation. Et pour essayer de comprendre si l'avortement est une chose que l'on confesse facilement et souvent, à quel moment, pour quelle raison, etc. Et le résultat de l'enquête était quand même très intéressant, et ce qui lui a permis de tirer un certain nombre de leçons sur l'importance du sacrement de réconciliation comme sacrement de guérison par rapport à cette grande blessure, hein, et ce grand drame de l'avortement pour la femme qui a pu y avoir recours. Et en tout cas, les constantes, souvent, c'est qu'on s'en confesse peu, qu'on s'en confesse souvent très en aval de l'événement, parce qu'on est poursuivi par cette blessure, hein, difficilement supportable, au fur et à mesure que les années passent, et que les autres acteurs qui peuvent être un peu partie prenante, et souvent même de manière déterminante, de ce drame de l'avortement ne se confessent pas beaucoup non plus de leur propre responsabilité. Voilà. Et en tout cas, de montrer combien c'est un vrai chemin de libération. Il ne s'agit pas de minimiser l'acte sous prétexte de miséricorde, mais au contraire, de montrer combien cette miséricorde est tellement, tellement forte, d'autant plus que la chose est ressentie comme, évidemment, comme grave. Et c'est vraiment un vrai chemin de guérison et de libération.
Alors, Mgr Haye, il y a eu aussi cette affaire Fabienne Brugère qui a alimenté aussi cette assemblée plénière. Vous, comment vous l'avez vécu? Est-ce que c'est une question autour du dialogue et du débat dans l'Église aujourd'hui?
Alors, je pense que de fait, le cas était dans l'air avant l'assemblée plénière. Donc, il n'y a de secret pour personne que ce sujet ait été abordé entre nous. Je répète de manière posée et fraternelle, même si il peut y avoir des divergences de point de vue par rapport au fait même de l'inviter dans ce cadre-là, d'une session, disons, de formation. Pas tellement d'ailleurs sur le sujet philosophique qu'elle était invitée à aborder, qui est évidemment un sujet qui nous intéresse, même si la philosophie du care, comme on dit, est une philosophie qui est extrêmement ambiguë et qui, de fait, est le recours principal de pas mal de théories ou d'idéologies comme celle du genre et de l'homosexualité, etc. Mais pour autant, je crois que la question qui peut être débattue entre nous, c'est de l'opportunité, étant donné le caractère plus militant affiché de cet universitaire par ailleurs, de ses travaux en termes de philosophie. Je crois qu'il faut... Moi, je ne veux pas en dire plus sur les positions des uns des autres. La mienne, vous la connaissez. Et pour autant, je répète que cette question permet d'aborder la question du dialogue, en effet, avec la société. Et là, on peut dire que tout le monde est bien d'accord parmi les évêques pour cette nécessité d'un dialogue avec la société et avec la culture d'aujourd'hui, en se disant bien que pour entrer dans un dialogue, il faut être vraiment convaincu de sa participation et de la part que l'on apporte au dialogue à partir de nos propres convictions, comme disait Benoît XVI, repris par le pape François textuellement dans son exhortation apostolique, la joie de l'Évangile. Dans tous ces dialogues, l'Église parle à partir de sa foi et de l'expérience de la souffrance des hommes, au chevet desquels elle se porte de manière continuelle dans son soin pastoral, et que le but, c'est toujours de rechercher la vérité. Cette vérité, d'ailleurs, que pour nous-mêmes, nous avons reçu mission d'annoncer avec clarté, et cette vérité, pour nous, elle n'est pas négociable, dans le sens où elle n'est pas l'objet d'une négociation dialogique, comme disait Saint Jean-Paul II, puisque cette vérité, elle a un nom et un visage, c'est Jésus-Christ qui est la vérité. Alors évidemment, je crois que c'est dans ce cadre-là qu'il faut que nous situions bien notre dialogue avec la société, et il peut y avoir différents accents et différents débats entre nous là-dessus.
Alors, Mgr Haye, dans le cadre de la préparation au synode sur la famille, vous êtes allé récemment en voyage d'études en Russie, c'était tout début avril. Il y a eu une petite polémique sur ce voyage. Vous avez parlé tout à l'heure de désinformation. Vous avez l'impression d'avoir été un petit peu victime de désinformation. Alors, pouvez-vous nous réexpliquer le programme de ce voyage? Est-ce que vous comprenez la polémique qui a pu avoir lieu?
Alors, j'ai publié, donc, comme vous le savez, sur le site du diocèse, une note que j'ai d'ailleurs remise au président de la Conférence évêque de France pour que on puisse lever toute ambiguïté qui avait été planée autour de ce voyage. Je crois quand même, à travers une désinformation factuelle ou intentionnelle, je ne veux pas en juger, du journaliste de la Croix qui m'avait d'ailleurs interrogé sur le bien fondé de ce voyage. Et sur les objectifs que je recherchais avec l'équipe qui m'a accompagné, qui avait jeté un peu le trouble en le liant aux événements qui évidemment n'étaient pas prévisibles lorsque le voyage a été programmé il y a 6 mois, en Ukraine et en Crimée, et comme si j'allais, comme cela avait été dit dans un pamphlet, poutinisé la manif pour tous, même si les acteurs de ce voyage avaient participé d'une manière ou d'une autre à ce grand mouvement pour le mariage et la famille et contre le projet de loi sur le mariage pour tous, mais on n'était pas mandaté ni par la manif pour tous, et c'était pas au nom de la manif pour tous que nous allions. C'était un voyage privé auquel, c'est vrai, que nos hôtes russes en particulier un higoumène du patriarcat orthodoxe de Moscou, qui est le représentant du patriarcat de Moscou auprès de du Conseil de l'Europe à Strasbourg, ont donné un caractère un peu officiel parce qu'ils étaient contents de recevoir une délégation française de catholiques avec un évêque. Et donc nous avons été particulièrement bien reçus par les orthodoxes russes, donc ce qui est assez intéressant dans le cadre de l'écuménisme d'aujourd'hui.
Donc c'était une rencontre avec l'Église orthodoxe.
En fait, c'était une rencontre avec les réalités qui promeuvent le mariage et la famille, tant dans le contexte du patriarcat de Moscou, donc de la pastorale familiale de nos frères orthodoxes de Moscou, que dans le cadre des organisations non gouvernementales qui fleurissent dans la société civile russe, un peu par analogie à ce qui se passe chez nous, mais depuis peut-être un peu plus longtemps, et même aux États-Unis, depuis encore plus longtemps, pour promouvoir la vie et une culture de la vie et de la famille. Et c'est dans ce cadre-là que nous nous y allions, à cause de liens que nous avions eus avec deux personnes. D'abord, un certain Grégoire Pupinck, qui d'ailleurs a participé à l'élaboration du discours de Benoît XVI au Bundestag en Allemagne, et qui est un fin juriste et politique, et qui était intervenu dans notre colloque pour la vie. Et c'est ce qui nous a permis d'établir des liens avec lui. Donc lui, il dirige une organisation de non gouvernementale de juristes d'inspiration chrétienne qui fait de la veille, j'allais dire, politique et législative auprès de la Cour européenne des droits de l'homme et le Conseil de l'Europe de Strasbourg. Donc c'est assez intéressant. Et il nous avait mis en lien, lui, de même qu'on était en lien par d'autres avec des associations pro-vie et pro-famille américaines, avec un catholique russe de Saint-Pétersbourg qui dirige une association une organisation non gouvernementale pour la famille, hein, qui s'appelle For Family Rights, et qui était intervenu aussi dans notre colloque, et qui se trouve être membre de la commission patriarcale pour la famille à Moscou. Donc un catholique qui est intégré par le patriarcat de Moscou dans une commission de la famille qui vient de naître et que nous avons rencontré, qui est très tournée vers ce qui se passe chez nous en France, du point de vue de la pastorale familiale, tant les orientations du Conseil pontifical pour la famille que les conseils épiscopaux de la famille en Europe, et chez les catholiques. Vous voyez, donc en gros, c'était aussi une perspective écuménique un peu particulière qui était autour de la famille et de la vie. Et d'ailleurs, nous avons été reçus par le métropolite Hilarion, qui est le second du patriarcat de Moscou, qui est le ministre des Affaires étrangères, et qui nous a dit que entre orthodoxes et catholiques, eh bien, nous avions des points communs autour de ces valeurs qu'ils appellent eux valeurs traditionnelles du mariage, de la vie et du mariage, et de la famille, et qu'on avait intérêt à développer nos relations écuméniques sur ce thème. Voilà. Ça me semblait pour nous très intéressant de voir que sous diverses latitudes, il y a des associations qui peuvent aussi constituer une sorte de réseau d'encouragement, de mutualisation d'expériences autour d'un phénomène qui est finalement mondial et auquel, de fait, nous nous attelons particulièrement dans l'Église catholique à travers la convocation de ces deux synodes sur la famille d'octobre 2014 et octobre 2015. Voilà.
Vous referiez ce voyage de nouveau ou...
Mais très volontiers. J'espère bien un jour peut-être avoir l'occasion de le refaire. Je pense que c'est toujours un enrichissement. Et vous savez, avant tout, je suis allé évidemment rencontrer le nonce apostolique à Moscou, nonciature qui a été ouverte par Benoît XVI il y a 4 ans. C'est vous dire la détente des relations entre catholiques et orthodoxes en Russie aujourd'hui, ce qui est quand même assez intéressant. Et je suis allé rencontrer l'archevêque catholique de Moscou, quand on sait que dans quel contexte le pape Jean-Paul II avait fondé un diocèse catholique à Moscou, aux grandes dames des orthodoxes, ça avait été un point de friction. En plus, il avait nommé un archevêque d'origine biélorusse formé en Pologne. Donc, vous savez, c'était quand même pas très, très, très apparemment prudent. Et ça avait été très tendu comme relation. Il ne savait pas arranger les relations entre catholiques et orthodoxes de russes.
Mais est-ce que vous avez compris ce qui a pu gêner certaines personnes sur ce voyage? Est-ce que ça a été l'occasion d'un dialogue, justement?
Il y a une information qui m'a été demandée parce que à cause de l'article de la Croix hein, qui faisait croire que la conférence évêque de France était opposée à ce voyage en disant les instances, c'est là où je parle des informations.
C'est ça le point qui
voilà. Les instances de la conférence épiscopale sont irritées par ce voyage Monsieur Rayet, et puis de citer Denis Viennot, qui n'est que le responsable d'une commission qui s'appelle Justice et Paix, qui est quand même très en marge de notre assemblée d'évêques. Et d'ailleurs, quand j'en ai parlé à Monsieur Pontier, il m'a dit « Mais non, tu fais partie davantage des instances de la conférence épiscopale que lui. La question n'est pas du tout là. Mais lui, ayant été alerté par la presse, forcément, comme il n'avait pas d'informations, et que moi, je partais en voyage privé, j'avais pas de raison j'avais mis dans mon agenda de diocèse, mais je n'avais pas de raison je ne représentais personne. D'autres évêques s'en vont ici ou là pour des voyages. Marc Stinger, peut-être plus au nom de la commission Justice et Paix au niveau national, mais va très souvent ici ou là.
Et donc vous pouvez témoigner d'un regain des valeurs en Russie où il y a quand même encore la PMA et la GPA qui sont.
Alors voilà, si vous voulez, moi
c'est pas tout blanc tout noir.
Ce dont je peux témoigner, et c'est d'ailleurs ce qui m'a été confirmé par les catholiques. J'étais en train de parler donc de l'archevêque catholique, qui est un Italien aujourd'hui, qui est en très bonne intelligence avec le Patriarcat de Moscou, et le nonce apostolique, qui m'ont encouragé dans ma démarche, en disant « Vous avez raison, il faut multiplier ce genre de démarche de catholiques européens de manière amicale et fraternelle, et donc informelle, en tout cas dans notre intention à nous, avec les orthodoxes, et d'ajouter, nous confirmons que la politique en faveur de la vie de la famille mise en place par le président Poutine aujourd'hui est tout à fait favorable ». Et permet, en effet, au patriarcat de Moscou, qui n'est pas dupe non plus sur l'appropriation de ces valeurs traditionnelles défendues par Poutine, par la population, hein, mais qui permettent certainement au patriarcat de Moscou de tenter de relever ce défi d'évangélisation du mariage et de la famille, ce qu'ils essayent de faire avec des moyens qui sont évidemment moins... Il faut quand même pas oublier que la Russie sort de 70 ans de dictature communiste, avec une décapitation de l'église orthodoxe. Une église sur deux ont été détruites. La cathédrale Saint-Sauveur a été rasée par Staline. Il y avait très peu d'évêques qui étaient encore en place. Et que la foi s'est transmise par les grands-mères, hein, avec interdiction d'enseigner la foi. Donc il faut quand même voir ça. Et qu'il y a 20 ans de reconstruction. Poutine en tête d'un acteur qui peut être décrié, qui a sûrement des défauts. Moi, je ne me situe pas dans une politique, mais je ne sache pas que lorsque le président chinois est venu, dont on s'est réjoui des contrats signés, ait été si décrié que ça par la presse. Il y a peut-être eu une ou deux choses qui ont été dites, mais il a été reçu avec les honneurs dus à son rang. Et on sait quand même qu'en Chine, les droits de l'homme sont explicitement bafoués, alors qu'en Russie, on n'en est plus complètement tout à fait là. Qui est peut-être un pouvoir autoritaire, je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut aller là-bas pour voir que les gens sont libres dans les rues et qu'ils sortent de 70 ans de communisme et qu'il y a 20 ans de reconstruction seulement derrière eux. Alors, moi, je veux bien que ce soit que Poutine représente le démon, mais il faut quand même que garder de proportion. Et d'ailleurs, je n'allais pas pour donner un blanc-seing à Poutine. J'allais dans un cadre tout à fait pastoral, et non seulement je ne le regrette pas, mais je suis tout à fait prêt à le refaire.
Radio Lapourdi.
Le 27 avril dernier, deux papes ont été canonisés. C'était un événement historique, il faut le dire, Monseigneur Rayet.
Oui, ça c'est vrai que c'est assez extraordinaire de voir Saint Jean-Paul II et Saint Jean 23, donc canonisés ensemble. On sait que Jean 23 avait été canonisé par Jean-Paul II en même temps que...
Béatifié.
Béatifié par Jean-Paul II en même temps que Pie IX, ce qui est assez surprenant aussi, hein. Encore plus que Jean-Paul II et Jean 23 ensemble. Et on sait aussi que la cause de Pie XII est terminée, qu'on est en attente d'une béatification qui nécessite encore quelques éclaircissements, au moins par rapport à l'opinion publique, sur aussi là la désinformation qui entoure son personnage.
Paul VI également.
Paul VI qui va être béatifié le 19 octobre prochain. Moi, je suis quand même assez impressionné, d'abord par la chose suivante. C'est que l'Église est certainement la seule institution au monde qui peut s'honorer d'une telle lignée de responsables, de hauts responsables, depuis au moins la moitié du 19e siècle, de manière ininterrompue. des saints papes, il y en a dans toute l'histoire de l'Église, mais là, de manière ininterrompue, depuis Grégoire XVI, on a l'impression qu'il y a quand même pas mal de saints, hein, entre Pie IX qui a été beatifié, Pie X qui est canonisé, pas
et
mal
c'est
de...
c'est pas parce qu'ils sont papes qu'ils sont saints.
Et c'est pas parce qu'ils sont papes qu'ils sont saints, mais il faut reconnaître que l'Église s'honore de papes, donc de hauts responsables, qui sont des saints, et des hommes exemplaires au plan intellectuel, au plan culturel, au plan spirituel, au plan de l'exemplarité des vertus, qui est quand même assez extraordinaire, parce que quand on sait ce que c'est qu'une enquête de béatification ou de canonisation, c'est passer au peigne fin avec ce qu'on appelait l'avocat du diable autrefois, qu'on appelle maintenant le promoteur de justice, pour faire moins peur, mais c'est tout ça, c'est passer au peigne fin, les moindres contre-témoignages sont étudiés, etc., et tout est public, on peut tout consulter. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Et le pape François, qui semblait, aux yeux de certains, minimiser le rôle et la place de la papauté au sein de l'Église, c'est quand même lui qui canonise deux de ses prédécesseurs et qui va béatifier un autre, si vous voulez. Donc c'est quand même assez, assez extraordinaire, et qui prend même la liberté pour Jean XXIII de le canoniser sans miracle. Ce que normalement la procédure requiert. Mais lui, finalement, il a tous les droits, quoi, puisqu'il est le pape. Bon, je m'amuse en disant ça, c'est avec un peu d'humour, mais qu'est-ce que je vois dans tout ça pour moi, pour ma part? Parce que c'est donner en exemple à l'Église universelle des hommes. C'est pas parce qu'ils sont papes qu'ils sont saints. Mais c'est vrai que leur sainteté a certainement donné encore plus de crédit à leur autorité et à leur magistère, hein, de successeur de Pierre. Moi, ce que je vois, c'est finalement donner au pape, dont on a reconnu au Concile Vatican I l'infaillibilité en matière de doctrine, hein, de magistère, à l'exemplarité du pape, au pape une exemplarité qui est efficiente dans la vie de l'Église. Donc c'est quand même important. Depuis surtout Jean-Paul II sans doute, mais tous les papes modernes ont une place assez prépondérante sur la scène publique et sur la scène médiatique. Donc ils sont quand même les porteurs d'une image de l'Église et donc d'une image du Christ. Ils sont quand même des témoins privilégiés grâce aux médias et sans doute qui s'attachent à des personnalités publiques du message que nous sommes appelés tout un chacun à transmettre là où nous sommes. Donner autant d'importance à cette exemplarité qui a effectivement été la leur jusqu'à les moindres détails de leur vie quotidienne, c'est ajouter à la crédibilité du message que l'Église est appelée à transmettre, surtout l'Église qui est parfois tellement attaquée dans les contre-témoignages qu'elle peut apporter par ses membres, etc., et que on a tôt fait dans les médias parfois d'insister beaucoup sur les choses négatives, nous établir dans une repentance perpétuelle par rapport aux exactions du passé, qui devraient être d'ailleurs resituées dans leur contexte et qui n'est pas le fait seulement de l'Église catholique. Et ben non, on peut dire que ces personnages qui traversent qui crèvent les écrans, comme Jean-Paul II, comme Jean XXIII, aujourd'hui le pape François, Paul VI, qui est pourtant un personnage beaucoup moins médiatique que n'étaient les autres, peut-être un jour Benoît XVI, et le pape François, qui a une belle aura aujourd'hui. C'est quand même intéressant, ça, vous voyez. Et puis, au sein de l'Église, voyez-y aussi cette réconciliation des uns et des autres. Hein, moi, je qui ai aujourd'hui 57 ans, j'ai connu, adolescent, les années immédiatement post-conciliaires, avec ces déchirements et ces divisions entre ce qu'on appelait les intégristes et les progressistes, avec ceux qui décriaient beaucoup le pape Jean XXIII pour le concile, le pape Paul VI, les autres qui vont décrier le pape Jean-Paul II, qui aurait réhabilité l'Église anticonciliaire, etc., avec l'appui du pape Benoît XVI. Vous voyez, tout ça est intéressant parce que le pape François, qui se situe à la suite de tous ces événements, mais on est sorti finalement de l'ère conciliaire, puisque c'est le premier pape qui n'a pas participé au concile. Et vous marquerez qu'il en parle peu, pour finir, parce que c'est intégré. Hein. Et ben, donne des petits signes comme ça. Il parle beaucoup par des gestes, plus que par des paroles, souvent. Hein. Il canonise en même temps Jean-Paul II et Jean XXIII, celui qui a eu l'intention du concile et celui qui l'a mis en application, étant décrié pour l'avoir trahi par certains dans l'Église. Puis sont canonisés ensemble. Paul VI, qui est celui qui a conclu le concile, qui est le pape d'Humane Vitae, qui va être béatifié. Tout ça, c'est des messages très forts, vous voyez. Et moi, je me dis, ça montre bien que l'Église résiste à toutes les divisions, et que toute interprétation politique, au sens politicien du terme, de la vie et de l'histoire de l'Église récente, à travers les hommes qui sont extrêmement différents, que Dieu a choisi pour présider à sa destinée temporelle, finalement, tout cela, c'est une grande communion. Voyez, une grande communion, une grande unité avec des accents, des charismes, des choses qui ne sont pas opposées, mais qui s'enrichissent mutuellement.
Et donc, ouais, ça, je trouve une grande communion, mais avec quand même des intégristes qui refusent quand même toujours le Concile Vatican II.
Tout à fait. Et beaucoup d'autres qui croient l'accepter et qui en fait l'ont complètement fourvoyé. Donc, vous voyez, on est dans les extrêmes. Malheureusement, l'Église est phagocytée par ça. Vous avez à la fois les intégristes qui refusent le Concile et vous avez ceux qui brandissent le Concile mais qui brandissent pas le vrai Concile. Donc on est, c'est pour ça que là il faut suivre les grands témoins et les grands guides que l'Église nous donne, et je crois que ces canonisations vont vraiment dans ce sens-là.
Alors, quelle grâce peuvent nous apporter ces deux nouveaux saints? Déjà, Jean XXIII, dont vous disiez le pape du Concile, c'est vraiment comme cela qu'il faut le considérer?
Alors, le pape François, que vous savez, est assez sobre dans ses discours. Quelquefois, d'ailleurs, on aurait aimé avoir plus. Puis je pense à cette grande génération, Jean-Paul II, qui est quand même très actuelle encore, hein. De 27 ans de pontificat, qui ont été quand même très marqués par son pontificat, qui peut-être aurait aimé qu'on parle beaucoup plus de lui, etc. Bon, pape François est un homme sobre. Il a parlé ensemble des deux souverains pontifes, et puis il a consacré à la fin de son homélie deux petits paragraphes pour dire ce qu'il retenait de plus important de chacun. Pour Jean XXIII, il a dit « c'est le pape de la docilité à l'Esprit Saint ». Pour bien dire, une bonne fois, et comme tous les papes l'ont dit après Jean XXIII, que le Concile est une intuition de l'Esprit Saint, et pas une déclaration de réforme politique qui serait sortie de son chapeau dans une idée parfaitement humaine et politique des choses. C'est une intuition de l'Esprit Saint, et donc on accueille le Concile, on doit l'accueillir et le mettre en œuvre dans cette même docilité à l'Esprit Saint. Donc ça, c'est très important. Pour Jean-Paul II, il avait l'embarras du choix. Jean-Paul II, c'est un géant qui a occupé la scène, encore une fois, de l'Église et du monde pendant 27 ans. Donc, et puis qui a été un pape qui a bouleversé l'histoire de l'Église et l'histoire du monde. Hein. On pense évidemment à la chute du mur de Berlin, en particulier en 1989. Hein. Ce pape qui a commencé par crier « N'ayez pas peur, ouvrez vos portes au Christ, toutes grandes, les portes des systèmes politiques, économiques, etc. » Et il aurait pu dire Jean-Paul II, le pape de la Vierge Marie. Tous, hein, sa devise. Il aurait pu parler de Jean-Paul II comme le pape de la jeunesse. Les journées mondiales de la jeunesse, c'est son intuition inspirée. Hein. Il aurait pu parler du pape Jean-Paul II, du pape de la miséricorde, parce que qui disait lui-même que son pontificat ne pouvait se comprendre que sous le signe de la miséricorde. Hein. Dives in Misericordia, la deuxième grande encyclique sur la miséricorde du Père. Et puis, ce dimanche de la miséricorde qu'il a institué, il est mort la veille, aux premières vêpres, c'est le dimanche de la miséricorde que François a choisi pour la canonisation de ces deux saints papes. Bon. Il a choisi le pape de la famille. Vous voyez, c'est quand même très, très intéressant. À quelques mois de ce synode sur les défis pastoraux de la famille dans le contexte d'aujourd'hui, et c'est aussi dire, allez, pour éclairer nos débats, et notre nécessaire accueil, accompagnement pastoral des situations difficiles, dites irrégulières, hein, qui se multiplient dans la société, y compris dans l'Église, faisons-le, retrouvons cette belle lumière de cet enseignement de Jean-Paul II, qui est un enseignement primordial. Hein. Jean-Paul II, c'est le cardinal Wojtyła d'abord, qui fait partie de la commission élargie chargée de conseiller le pape sur les questions de régulation des naissances, qui envoie, faute de pouvoir être présent à cause d'un refus de son visa par le gouvernement communiste de Pologne, un rapport à Paul VI, qui s'appelle le rapport de Cracovie, qui a enjoint d'une certaine manière le pape Paul VI, qui était très hésitant, à publier l'encyclique Humanae Vitae, qui a été si mal reçue et qui a tant traumatisé le pape Paul VI devant cette non-réception. Voyez. Et c'est le pape Jean-Paul II qui rattrape Humanae Vitae à travers ses 4 années de catéchèse approfondies au peuple de Dieu par les audiences du mercredi sur le corps humain, le mariage, l'amour, la sexualité, la famille, qui convoque le synode de la famille en 1979 et qui publie la belle exhortation apostolique Familiaris Consortio sur lequel tout est dit. et qui fondent en même temps le 13 mai. Nous enregistrons cette émission le 13 mai, hein, fête la première apparition de Notre-Dame à Fatima, le 13 mai 1981, jour de son attentat, sur la place Saint-Pierre, il avait signé le décret de fondation du Conseil pontifical pour la famille. Vous voyez, c'est quand même tout ça est très intéressant. Et voilà ce que nous dit le pape François aujourd'hui.
Radio La Pourdie.
Monseigneur Hayet, nous revenons maintenant dans cette dernière partie d'émission sur les événements de notre diocèse, plus particulièrement la préparation de cette grande journée diocèse en fête prévue le 8 juin prochain, avec le passage des reliques de Sainte Marguerite Marie à la Coque qui sillonne notre diocèse depuis maintenant plus d'un mois. Comment cela se passe, ces reliques donc, qui passent de paroisse en paroisse, qui passent même dans des familles, je crois. Est-ce que vous avez eu des témoignages sur le passage de ces reliques?
Alors j'ai déjà quelques témoignages, de fait. Hein. Sainte Marguerite Marie à la Coque ne fait pas beaucoup de bruit, encore moins aujourd'hui, à travers ces reliques qui sillonnent le diocèse, qui sont en effet accueillies par des communautés religieuses. En ce moment où nous parlons, elle est chez les bénédictines de Belloc, et les moines se déplaceront chez les bénédictines pour les vénérer, et surtout s'approprier son message. Pourquoi elle ne fait pas de bruit? Pourquoi elle est discrète? Parce que, évidemment, Sainte Marguerite Marie, elle est tournée vers le Sacré-Cœur de Jésus, et elle tourne nos regards vers le cœur de Jésus, auquel nous voulons nous consacrer solennellement, ensemble, le 8 juin prochain, jour de la Pentecôte, au cours de notre rassemblement diocèse en fête. Mais j'ai eu des témoignages de religieuses qui ont été très touchées, bouleversées par cette présence, les séminaristes qui ont reçu les reliques et qui ont accompli une belle soirée veillée de vénération, avec le témoignage d'Alicia Beauvisage et du père
Marot, donc, qui accompagne les reliques.
Édouard Marot, qui accompagne de temps en temps les reliques et qui était là à ce moment-là. Elles vont aller à la prison de Bayonne, ce qui est quand même à la demande de l'aumônier, et ainsi qu'à la prison de Pau. Donc c'est assez intéressant de voir qu'elle va diffuser son message de consécration, de dévotion, au sens de dévouement, hein, dans le français du XVIIe siècle, au cœur de Jésus, c'est-à-dire à l'amour blessé, hein, de Jésus pour nous. Et donc cette dévotion qui est une invitation, à, dans la ligne de notre baptême, à répondre amour pour amour à cet amour du Christ, et un amour qui soit rédempteur comme l'amour du Christ, et qui puisse aussi sauver les âmes, comme on disait autrefois, et comme on continue de le dire d'ailleurs, mais comme aurait dit Saint-Michel Géricault en particulier.
Alors justement, Michel Géricault, ça a eu cette dévotion au Sacré-Cœur puisqu'il a fondé des prêtres qui portent ce nom.
Voilà, et d'ailleurs, pour tout vous dire, je suis en train de me replonger dans un très beau livre qui a été écrit sur sa doctrine spirituelle, parce que je dois clôturer cette année jubilaire Saint-Michel Géricault à Bétharram le 14 mai, hein, pour la fête de Saint-Michel Géricault. Et je me suis replongé dans la vie spirituelle pour essayer de comprendre quelle était sa dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, et pourquoi il a voulu fonder la société des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus. Hein. D'où cette devise « unani », hein, comme on dit en basque, et qui reprend le latin « ecce venio », hein, « voici, je viens pour faire ta volonté ». Et il dit pourquoi avoir fondé une société de prêtres sous le vocable du Sacré-Cœur? Eh bien, parce que le premier mot, pour s'unir plus exactement au premier mot du cœur de Jésus, qui est « voici, je viens pour faire ta volonté ». Donc pour s'unir à l'obéissance amoureuse du Christ à la volonté de son Père, qui est de sauver tous les hommes. Et donc pour accueillir les dispositions du cœur de Jésus, de charité, d'humilité, d'obéissance absolue, hein. Il parlait de la passion de la dépendance par rapport à son supérieur, qui est son évêque, qui d'ailleurs lui en a fait voir pas mal, comme souvent les évêques sans doute. Mais et donc s'approprier les sentiments du cœur de Jésus pour entrer dans son zèle son dévouement total pour le salut des âmes. Donc je trouve que c'est une belle correspondance. Les reliques de Saint Michel Gréco-Rousse ont aussi un peu sillonné le diocèse pendant cette année jubilaire. Les pères Bétaram ont diffusé son message. Et donc, on va clôturer ça le 14 mai et ça va nous introduire à la préparation ultime de cette consécration au Sacré-Cœur de Jésus au cœur Michel et Marie. Saint Michel Gericoïde insiste sur l'Etchevenio, qui est le mot par excellence du cœur de Jésus, et il insiste en écho sur l'Etche Ancilla, je suis la servante du Seigneur, voici la servante du Seigneur de la Vierge Marie, qu'il a complètement unie à son Fils, évidemment, puisque c'est dans le sein de Marie qui a dit « Ecce ancilla Domini », voici la servante du Seigneur, qu'il a prononcé ce premier mot en entrant dans le monde, d'après l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui reprend ce verset du psaume 39, « Ecce venio, voici, je viens pour faire ta volonté ».
Alors la consécration du diocèse au cœur de Jésus et de Marie, ce sera le 8 juin prochain, lors de notre journée diocèse en fête. Outre cette volonté d'assister à cette consécration, qu'est-ce qui pourrait inciter les gens à venir? Quel message voulez-vous leur donner pour les personnes qui hésitent à venir à cette journée qui se déroulera à Pau?
Alors bon, cette journée qui reprend la suite de deux grandes journées que nous avons déjà faites, pas l'an dernier, mais les deux années précédentes, plutôt à Notre-Dame du Refuge, donc sur la côte basque, veut être quand même un grand rassemblement diocésain, à la fois des familles et puis de tous ceux qui appartiennent, qui se reconnaissent dans notre famille diocésaine, dans le sens de nécessité de cette cohésion, d'une expérience de grande communion, de j'allais dire de prière, de partage de la foi, de vie fraternelle aussi, d'échange. Donc ça déjà, je pense que c'est une vraie raison d'y inviter le maximum de fidèles du diocèse. Cette consécration solennelle au Sacré-Cœur de Jésus, préparée dans les paroisses, en particulier à travers le voyage des reliques de Sainte Marie de Marie, donc peut-être aussi une bonne occasion de se rassembler le plus nombreux possible, pour les fruits que nous attendons et que j'ai déjà exprimés à plusieurs reprises de cette consécration. Et je pense aussi la confirmation des adultes du diocèse, comme chaque année à la Pentecôte, au cours de la messe solennelle l'après-midi. Et puis deux beaux témoignages que nous recevrons. Un témoignage bouleversant d'un jeune couple qui a connu non seulement une conversion à Notre-Dame de Rocamadour, mais aussi peut témoigner d'un vrai miracle dans leur vie, qui n'est pas seulement un miracle spirituel, mais qui est aussi un miracle physique. Et je pense que ce témoignage de la miséricorde du cœur de Jésus par Marie dans la vie de ce jeune couple tout à fait branché, peut être aussi stimulant pour faire venir les fidèles. Des jeux et des activités organisées pour les enfants du catéchisme aussi, par le service des catéchèses, qui seront tout à fait porteurs. Et d'ailleurs, quand je vois comment les jeunes ont répondu pour la journée des cinquièmes, par exemple, à Bayonne, 700 jeunes qui ont été enchantés, ainsi que leurs animateurs et les prêtres, je pense que c'est aussi une bonne raison de les y inviter. Et puis, il y aura une belle conférence aussi, avant la messe, du père Bernard Peyrousse, qui se trouve être un palois d'origine, qui a fait toutes ses études à l'Immaculée Conception, où va avoir lieu cette manifestation diocèse en fête, et qui aujourd'hui est le recteur des sanctuaires de Paray-le-Monial, la cité du Sacré-Cœur. Donc je pense que tout ça peut être assez attractif pour que nous puissions être très nombreux pour cette grande fête diocésaine.
Un mot, Monseigneur Hayet, sur une nouvelle moins agréable, c'est la profanation de l'église de Bière qui a eu lieu dans la soirée du 9 mai dernier. Un mot sur cet événement.
Voilà, donc comme vous le savez, c'est toujours un événement douloureux pour une paroisse, surtout que là c'est vrai que ce sont des symboles très particuliers de culte qui ont été visés, l'autel, la croix, le cierge pascal, les excréments qu'on a retrouvés à côté du baptistère. Donc tout ça n'est pas seulement une bande d'enfants qui fait un peu n'importe quoi dans l'église. C'est d'ailleurs, paraît-il, des jeunes adultes qui auraient été vus par la personne qui a alerté les pompiers, puisqu'il y avait de la fumée qui s'échappait et ça aurait pu complètement brûler l'édifice. Moi, ce que je veux tout de suite souligner, c'est non seulement la promptitude des services publics, que ce soit les pompiers ou la police, mais aussi du maire, M. Lalanne, de Bière, qui ne partage pas forcément nos convictions chrétiennes, mais qui a été vraiment maire de tous ses administrés, qui s'est rendu très vite sur le lieu et qui a lui-même fait un communiqué pour s'associer à la peine de la communauté chrétienne. Et il a même parlé lui-même de profanation. Donc je trouve que c'est quand même important de le souligner. C'est jamais bon dans une société quand des symboles qui font vivre une partie des citoyens, en l'occurrence ici les chrétiens ou les catholiques, soient visés par des actes de haine ou de violence gratuite. Hein, c'est jamais bon sur l'état d'une société et en tout cas sur ça en dit long sur la cohésion sociale et l'acceptation des uns et des autres au sein de la société.
Alors vous avez parlé des confirmations d'adultes, mais vous allez aussi confirmer les adolescents avec les vicaires généraux, les vicaires épiscopaux. Ce sacrement de la confirmation, c'est vraiment un sacrement au cœur du ministère de l'évêque.
Au cœur du ministère de l'évêque, en effet, qui peut en effet déléguer aussi. Hein, c'est pourquoi, heureusement que je peux le déléguer aux vicaires généraux, parfois vicaires épiscopaux. Mais mon sœur Sarah Bert qui nous donne un coup de main, hein, évêque émérite des rédax qui est en résidence à Pau, à Bière. Et c'est vrai que c'est un mois béni hein, que ce mois des confirmations. La disposition de ces jeunes, de ces enfants, qui ne sont pas forcément très assidus à la vie de l'Église, faut quand même le reconnaître, qui grandissent dans des familles qui sont aussi, par leurs activités, par le rythme de leur vie moderne, aussi un peu déconnectés parfois de la vie de nos assemblées. Mais voilà. Dans les lettres des confirmants, dans cette bonne disposition dans laquelle ils sont, grâce aux temps forts qui sont organisés pour eux, dans les paroisses ou les aumôneries, les petites retraites qu'ils font, la célébration qui est souvent de qualité et qui les touche quand même beaucoup, je vois qu'il y a des perles. Hein, et comme je le dis en ce moment, je pense souvent à ce passage d'évangile de la seconde pêche miraculeuse racontée par saint Jean au chapitre 21 de son évangile. C'est la troisième fois que Jésus ressuscité se manifeste à ses apôtres qui sont partis à la pêche sur le lac de Tibériade. Et à un moment, Jésus, qui était là mais qui n'avait pas reconnu, leur dit « Est-ce que vous avez vu du poisson ?» Et eux, avec un certain désenchantement, disent « Non, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. » Et Jésus leur dit « Jetez le... » C'est inconnu pour eux encore. « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez du poisson. » Et puis tout à coup, c'est 153 poissons, comme dit saint Jean de manière très précise. Eh bien, vous voyez, au milieu de nos raisons de nous lamenter devant les épreuves que nous traversons, la pénurie des vocations, le vieillissement de nos assemblées, de notre clergé, l'essoufflement de certains de nos laïcs engagés, bénévoles, etc., le Seigneur se manifeste. Et il se manifeste à travers nos catéchumènes adultes de la Vigile Pascale, il se manifeste à travers les recommençants dans les paroisses, il se manifeste à travers la fidélité de ceux qui s'engagent au service de l'Église, il se manifeste à travers ces jeunes confirmés, ces confirmants que moi j'ai toujours plaisir à rencontrer, et dont plusieurs prêtres et animateurs témoignent cette année particulièrement, je ne sais pas pourquoi, de la qualité intérieure, capable de rester 10 minutes en silence, en adoration, disait tel curé, qu'ils en étaient tout surpris, qu'ils avaient une demande intérieure, ils avaient une qualité spirituelle. Moi, je vois dans les rencontres que j'ai avec eux, les questions qu'ils me posent, la tension qu'ils ont, enfin, tout ça est quand même, j'ai envie de dire, c'est le Seigneur. Hein, comme dit saint Jean, quand après la pêche miraculeuse, qui dit, c'est le Seigneur, voilà, Jésus se manifeste.
Merci beaucoup, Mgr Haillé, merci à Violaine Ricourt-Dumas, et rendez-vous au mois de juin pour une nouvelle émission avec vous. Merci.
Shema Israël, Aoudi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escoute Israël.
Mgr Marc Haillé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.